Radio Vatican, France et Afrique.
Amis et fidèles auditeurs, bienvenue à l'écoute de notre programme. Être pèlerin signifie marcher vers un lieu saint, une porte sainte qui représente Jésus pendant le jubilé, a expliqué le pape à des enfants aveugles et malvoyants accueillis au Vatican de la matinée du vendredi, veille de la journée mondiale du Braille. François qui les a invités à devenir des signes d'espérance. Nous y reviendrons dans l'actualité de l'Église qui nous conduira également au Bénin et en République démocratique du Congo. L'actualité sociopolitique sur le continent nous conduira en Éthiopie et au Sénégal avant d'accorder la parole à notre invité du jour, le père jésuite François Kaboré, pour nous parler du gros plan sur l'annulation de la dette pour les pays les plus pauvres. Une demande ancienne de l'Église formulée de nouveau par le pape François en cette année jubilaire. Et nous conclurons l'édition de notre programme avec notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine, sans oublier la présentation des vœux des auditeurs pour cette nouvelle année. Ce sera tout pour les titres, les détails dans un instant dans cette édition que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Lossambé.
Être pèlerin signifie marcher vers un lieu saint, une porte sainte qui représente Jésus pendant le jubilé, a expliqué le pape François à des enfants aveugles et malvoyants accueillis au Vatican vendredi, veille de la journée mondiale du Braille. François leur a souhaité de devenir des signes d'espérance, comme le furent avant eux de grands champions tels que saint François d'Assise ou sainte Thérèse de Lisieux. Face à ce jeune public, le pape a souligné l'importance de la porte sainte. Elle représente Jésus, le mystère du salut qui nous permet d'entrer dans une vie nouvelle, libre de l'esclavage du péché, libre pour aimer et servir Dieu et notre prochain. Et le Saint-Père leur a souhaité une heureuse année, désirant qu'elle soit pour eux une année de croissance personnelle et d'amitié mutuelle. Dans la salle du consistoire, le pape François a rencontré dans la matinée du vendredi 3 décembre les membres de l'archiconfrérie italienne des saints Jean-Baptiste et Jean l'Évangéliste des Chevaliers de Malte venant de Catanzaro en Calabre, dans le sud de la péninsule. Le pape a proposé une réflexion focalisée sur trois verbes, adorer, servir et marcher, à ces laïcs qui ont pour sainte patronne Marie, la très sainte mère de Dieu, qui montre le chemin, c'est-à-dire Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, leur a rappelé le pape François. Habitués à adorer le Saint-Sacrement, les membres de l'archiconfrérie sont invités par François à cultiver la prière, personnelle et communautaire, afin qu'elle soit la force qui renouvelle leur association. La ferveur, en effet, préserve la fraternité, a souligné le pape, qui a expliqué que du Seigneur Jésus, qui nous nourrit de sa vie et nous soutient de son esprit, viennent tous les dons, les charismes, les fruits du bien, qui rendent l'Église féconde et joyeuse, leur a fait savoir l'évêque de Rome. Du 25 décembre 2024 au 24 février 2025, des reliques de sainte Thérèse de Lisieux sont au Bénin. Cette visite qui intervient à l'orée de l'année jubilaire coïncide avec le centenaire de la canonisation de la sainte et le 70e anniversaire d'érection de l'archidiocèse de Cotonou. Au programme, une tournée des dites reliques dans les 10 diocèses du Bénin et des séminaires. Mais de quel message sainte Thérèse est-elle porteuse pour le Bénin d'aujourd'hui? Écoutons à ce propos les précisions de notre correspondant à Cotonou, Juste Umlano.
Les attentes des Béninois vis-à-vis du passage des reliques de sainte Thérèse de Lisieux au Bénin sont nombreuses. Père Justin Agosukwevi, coordonnateur de la commission chargée de l'organisation de cette visite de la sainte dans le pays.
D'abord, ce qu'on appelle donc chez elle cette petite voix, l'esprit d'humilité et de simplicité. Donc, évitons donc tout ce qui est roubadise, qui est duplicité, qui est fausseté, tout ce qui est couba. L'un des exemples qui va montrer vraiment que nous nous aimons, c'est accepter d'épouser l'esprit d'abnégation et de lutter contre donc, le chacun pour soi. Et donc de savoir donc, se dépouiller pour le pays et ne pas dépouiller donc, le pays. Et sur ce point, Thérèse donc, reste un modèle pour nous.
À sa suite, le père Emmanuel Schwab, recteur du sanctuaire de Lisieux qui accompagne ses reliques.
Ce que je peux dire, c'est parler aux adultes à propos des jeunes. C'est-à-dire de voir comment une fille comme Thérèse, très tôt, a une vie de prière, a une vie spirituelle, très tôt aime Jésus, de noter l'importance de la vie de famille sur l'éducation d'un jeune, l'importance de ce qu'elle apprend de ses parents. Et puis, les jeunes précisément, de sortir de l'idée que parce qu'on est jeune ou parce qu'on est adolescent, on envoie le bon Dieu balader.
Juste Rlanon depuis Cotonou pour Radio Vatican.
Et rendons-nous en République démocratique du Congo, où l'évêque de Kenge, Mgr Jean-Pierre Kwambamba, appelle à l'espérance en ce début de nouvelle année, dans un contexte où la région souffre encore de la violence causée par le conflit Teke-Yaka, né en août 2022 à Kwamout. Le compte-rendu de Jean-Baptiste Malengue.
Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba a relayé son message de nouvel an sur la radio catholique Antinungemba, radio Notre-Dame de la Paix. En 2024, le diocèse de Kenge et toute la région de trois provinces du sud-ouest de la RDC, les provinces du Kwango, du Kwilu et du Maïndombe, souffrent encore de la violence causée par le conflit Teke-Yaka, né en août 2022 à Kwamout et qui a donné naissance à une milice armée dite des Mobondo. Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba déplore bien d'autres problèmes et il appelle à l'espérance fondée sur le Christ.
Il y a des conflits armés, il y a des injustices, il y a des maladies. Alors, on peut se décourager, se demander comment aller de l'avant. Que sera notre avenir, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants? Que sera l'avenir de notre pays, de notre Église, de notre diocèse? Le message du pape ou le thème que le Saint-Père nous a proposé vient à propos. Nous ne devons pas nous décourager. Au contraire, la parole de Dieu nous invite à regarder l'avenir avec courage, avec confiance, parce que Jésus qui nous appelle, Jésus qui nous envoie, est le maître qui ne déçoit jamais.
Jean-Baptiste Malengue Kalonzou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
L'Éthiopie a annoncé vendredi, au lendemain d'une visite officielle à Mogadiscio, qu'elle allait finalement collaborer à une nouvelle force de l'Union africaine en Somalie contre les insurgés islamistes radicaux Shebab, qui doit se déployer ce mois-ci. Mogadiscio avait précédemment indiqué que les troupes éthiopiennes n'y participeraient pas, alors que les relations entre les deux pays s'étaient tendues après la signature par Addis Abeba il y a environ un an d'un accord maritime avec la région séparatiste du Somaliland. Après des mois de brouille, les deux pays ont toutefois récemment signé, sous l'égide de la Turquie, un accord pour mettre fin aux tensions. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal et la Mauritanie ont acté le 31 décembre 2024 l'ouverture officielle du premier puits du projet Grande Tortue Ameyim, GTA. Une date symbolique pour ce projet transfrontalier ambitieux qui marque l'entrée des deux pays dans le cercle restreint des nations productrices de gaz. De Dakar, retrouvons la correspondance d'Abdoulaye Diédou.
C'est avec une note positive que le Sénégal et la Mauritanie ont entamé l'année 2025 en officialisant leur entrée dans le cercle restreint des nations productrices de gaz à la suite de l'ouverture du premier puits de production de gaz tiré du projet Grande Tortue Ameyim. Cet ambitieux projet GTA porté par la multinationale britannique BP en partenariat avec les géants américains Kosmos Energy et les gouvernements du Sénégal et de la Mauritanie puise ses ressources dans des réservoirs situés à 120 km au large des côtes des deux pays. L'ouverture de ce premier puits du projet GTA marque le couronnement des opérations techniques et ouvre la voie au démarrage de la commercialisation du gaz. Se réjouissant de ce projet transfrontalier, le ministre sénégalais de l'énergie, du pétrole et des mines, Biram Souley Diop, d'affirmer que l'ouverture de ce puits de gaz matérialise la vision commune avec la Mauritanie de faire du projet GTA un modèle de collaboration énergétique réussi. Son homologue mauritanien Mohamed Ould Khaled parle lui d'un partenariat qui démontre la capacité des deux pays à atteindre des objectifs ambitieux et durable. A noter que le bloc GTA a pris des réserves estimées à 425 milliards de mètres cubes de gaz, une quantité pouvant garantir une production initiale de 2,5 millions de tonnes par an de GNL. Abdoulaye Diédou, Dakar, Radio Vatican.
Remets-nous nos dettes et donne-nous ta paix. C'est en ces termes qu'a été intitulé le message du pape François pour la 58e journée mondiale de la paix 2025, célébrée le 1er janvier. Dans ce texte, le souverain pontife dénonce notamment la dette extérieure comme un instrument de contrôle par lequel certains gouvernements et institutions financières privées des pays les plus riches n'hésitent pas à exploiter sans discernement les ressources humaines et naturelles des pays les plus pauvres. Notre invité du jour, le père jésuite François Caboret, chercheur, professeur d'économie et président de la COSIAM Jesuit University of Science à Ouagadougou au Burkina Faso, nous éclaire sur les conséquences concrètes d'une dette extérieure élevée et l'efficacité de mesures d'annulation en partant de l'exemple concret de son pays qui figure parmi les 10 pays les plus endettés au monde.
La dette publique totale du Burkina Faso pour 2024 est estimé à 57,4% de son PIB, c'est-à-dire de sa production de richesse. C'est un poids énorme. Ça veut dire que pratiquement ce pays-là vit pour rembourser ses dettes.
Et alors, quel est l'impact de cette dette sur la population d'un pays pauvre?
Un pauvre, c'est une personne qui dépend essentiellement des dépenses sociales de l'État, par exemple la protection sociale, la santé gratuite, l'éducation gratuite. Et au titre du premier trimestre de l'année 2024, les autorités burkinabées ont déboursé 42,6 millions de dollars pour le service de la dette extérieure. Ces millions de dollars auraient pu être utilisés pour la protection sociale, pour la santé, pour l'éducation, dont dépendent en fait la vie des plus démunis. Et le second élément qui touche les pauvres et les non-pauvres, c'est que la dette empêche de faire ce qu'on appelle des investissements de long terme, des investissements de développement, dans des infrastructures structurantes telles que les routes, les ponts. Quand il y en a, ça bénéficie à la fois à celui qui est riche et à celui qui est pauvre.
Y a-t-il également un impact sur l'environnement?
Oui, évidemment. Plus les gens sont pauvres, moins ils ont les moyens et les possibilités de protéger l'environnement. Ceci dit, on peut avoir l'impression que c'est seulement à travers la pauvreté que la dette impacte l'environnement. En réalité, le fait aussi que les pays n'ont pas les moyens de faire des grands investissements structurants, ça fait que, par exemple, si vous prenez le cas du changement climatique, dont sont victimes les pauvres, malheureusement, ce sont les pays riches qui causent ça. Et les pays pauvres n'ont pas les moyens de faire face à ce qu'on a appelé la dette écologique des pays riches.
À quoi devrait s'engager un pays dont la dette serait effacée?
Pour ne pas retomber dans l'endettement, il faut tout simplement ne pas dépenser plus que ce dont on dispose. Donc, en résumé, un tel pays devrait donc s'engager à une certaine discipline fiscale et budgétaire. Toute chose qui n'est pas forcément l'apanage des pays pauvres.
Si l'on se positionne du côté du pays créancier, outre l'aspect strictement financier, en cas d'annulation de la dette, à quoi un pays créancier devrait renoncer en annulant cette dette?
Il renonce à un pouvoir de coercition, à un pouvoir de s'imposer ou à un pouvoir de domination. Et je pense que c'est peut-être là que se joue un peu la question fondamentale, est-ce que les pays créanciers sont prêts à renoncer à ce bâton qu'ils ont pour pouvoir peut-être contrôler certains pays à travers les services de la dette?
À quoi pourrait servir une éventuelle réglementation internationale?
Le pape, en effet, parle à juste titre d'une charte assez solennelle qui s'appliquerait à tous. Cela pourrait ressembler, je dirais, à un engagement pour dire que nous voulons un monde plus juste. Et je pense que le jubilé, comme nous le savons, le pape l'a dit, il vise à rétablir la justice de Dieu dans les différents domaines de la vie, aussi dans les relations internationales entre les pays. Cette charte devrait donner avec précision les contours d'une annulation ou d'une réduction de la dette qui engagerait les créanciers et les débiteurs à une nouvelle dynamique des relations internationales et aussi à une plus saine gestion fiscale, notamment dans les pays pauvres.
Interrogé par Jean-Charles Puzzolou, le père François Caboret, professeur d'économie et président de la COSIAM Jesuit University of Science, était l'invité de Radio Vatican. Place à présent à notre magazine consacré à l'actualité internationale de la semaine. Parole à Marie-Josée Moindo.
Commençons l'actualité internationale de la semaine par l'attentat de Nouvel An aux États-Unis d'Amérique. Le suspect de l'attaque s'appelait Shamsuddin Jabbar, un citoyen américain du Texas, ancien employé au sein de l'armée américaine. Il est accusé d'avoir tué 14 personnes et blessé une trentaine d'autres en lançant son pick-up sur la foule du Nouvel An au cœur de la Nouvelle-Orléans. Le président américain Joe Biden a loué l'esprit de la Nouvelle-Orléans dont les habitants envoient un message sans équivoque qu'ils ne se laisseront pas vaincre par cette attaque. Les détails dans ce dossier signé par Loïc Loury.
Les fêtards étaient bien là 36 heures après le carnage, peu impressionnés par un énorme dispositif de sécurité. On n'a pas peur, dit Bill, on est américain, ajoute sa femme Katie, une bière à la main.
On voulait être là ce soir pour montrer que ça ne nous empêchera pas de faire la fête. On doit montrer notre résilience.
Mais tout le monde ne savoure pas cette fête précoce. Austin passe à toute vitesse en brûlant un bâton de sauge.
J'imagine que vous pourriez dire que je purifie Bourbon Street un petit peu. Mais je ne bois pas ce soir, je ne danse pas. J'ai été affecté probablement plus que ça n'aurait dû. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en miettes émotionnellement depuis l'attaque.
Pour autant, cet habitant du quartier ne blâme personne. Quelle est la bonne réaction face à une tragédie, se demande-t-il. Difficile de répondre. La Nouvelle-Orléans, Loïc Loury, Radio Vatican.
Dossier migration, le Royaume-Uni qui fait face à une forte hausse de traversées irrégulières de la Manche promet de renforcer la lutte contre les gangs de passeurs dans un projet de loi. Dans un rapport publié jeudi, l'ONG Refugee Council affirme par ailleurs que les efforts accrus pour démanteler les réseaux de passeurs ont rendu les traversées de la Manche encore plus dangereuses. Laurent Jaffré.
L'immigration demeure le thème le plus vif et présent dans le débat politique, même si les préoccupations majeures des Britanniques sont le coût de la vie, l'accès aux soins et le logement. Dans les derniers jours de décembre, 1776 personnes ont risqué leur vie pour traverser la Manche à bord de 38 embarcations surchargées, malgré un renforcement et une restructuration des moyens de lutte depuis l'arrivée au pouvoir des travaillistes en juillet. Selon les statistiques, le nombre d'arrivants est 25% plus élevé qu'en 2023, avec un nombre record de morts et de disparus. On estime à 150 000 le nombre de personnes qui, au cours des 7 dernières années, ont débarqué sur les côtes du Royaume-Uni, qui compte 60 millions d'habitants. La plupart des migrants viennent d'Afghanistan, du Soudan ou de l'Érythrée, souvent pour rejoindre des membres de leur famille. Le PDG de l'ONG Refugee Council, Enver Salomon, estime que ces dernières mesures n'empêcheront pas de nouvelles tragédies en mer. Il demande au gouvernement de mettre en place des voies légales et sûres dès cette année. Londres, Jean Jaffré, Radio Vatican.
En Syrie, les chefs de la diplomatie française et allemande plaident pour une transition inclusive lors de la première visite à ce niveau à Damas. La visite de Jean-Noël Barrot et Annalena Baerbock intervient sous mandat de l'Union européenne pour rencontrer le nouveau dirigeant syrien Ahmad al-Sharej. Le monde a célébré dans la nuit de mardi à mercredi l'entrée en 2025, au terme d'une année marquée par les Jeux olympiques, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, mais aussi de nouveaux bouleversements au Moyen-Orient et en Ukraine. L'année 2024, qui sera la plus chaude jamais enregistrée, a également connu des catastrophes naturelles aggravées par le réchauffement climatique, de la canicule meurtrière aux tragiques inondations.
Merci Marie-Josée et refermons cette édition de notre programme avec les vœux des auditeurs.
Bonjour à tous, je suis Jean-Claude Molekia Kinombe, père franciscain, diocèse de Butembo-Beni, originaire de la paroisse Saint-Gustave de Beni-Paida. Présentement, je me trouve en Italie, à Rome. Je voudrais présenter les vœux les meilleurs à Monseigneur l'évêque diocèse de Butembo-Beni, Monseigneur Sikouli Melchizedek, et le meilleur à tous les fidèles de la paroisse Saint-Gustave de Paida, à tous les fidèles de la paroisse Sainte-Claire d'Engengere et à tous les fidèles de la paroisse Saint-Joseph de Kimbulu et à tous les franciscains de la République démocratique du Congo. Joyeuse année à vous tous.
Bonjour, je m'appelle Gilbert Page, je suis de la RDC, habitant au Zimbabwe. Je suis venu souhaiter tous mes voeux de bonheur, paix et joie pour l'année nouvelle 2025 aux membres de ma famille ainsi qu'à tous mes amis. Meilleurs voeux à toutes et à tous.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici, chers auditeurs, que nous mettons un point final à notre programme aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe du programme Français-Afrique de Radio Vatican, Christian Lossambe qui vous l'a présenté, vous dit merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos programmes.